Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. Semaine un peu difficile pour le pétrole qui a augmenté. Ceci en raison de l'incertitude sur les approvisionnements qui sont liés toujours à la guerre en Ukraine et une demande croissante de la Chine. Le Brent a dépassé la barre des 110 dollars par baril. L'économie allemande a ralenti au premier trimestre, ce qui augmente les craintes de récession. Une fois encore est pointée la guerre en Ukraine ainsi que des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement qui ont pesé sur l'activité économique du pays, l'Allemagne, qui a cette réputation tout à fait justifiée d'être le pays qui produit le plus, et en tout cas les machines-outils de la meilleure qualité. Pour ce qui est du plan d'aide aux entreprises en France, le gouvernement a annoncé un nouveau plan d'aide qui devrait l'aider à faire face à la hausse des prix de l'énergie. Ce scandale financier au Vietnam, une femme tout à fait importante, certainement l'un des géants de l'immobilier, qui a détourné plusieurs dizaines de milliards de fonds de dollars dans un pays qui est éminemment pauvre. Celle-ci a été condamnée à la peine de mort. En tout cas, on se dirige vers l'été puisqu'il y a eu le redoux à la fois au Maroc mais dans de nombreux pays du Maghreb et de l'espace euro-méditerranéen. Le redoux, le soleil, cela signifie pour les chefs d'entreprise une somme de risque qui s'offre à eux dans l'exercice de leurs activités professionnelles. Ça peut être les incendies, ça peut être également les inondations, ça peut être également tout ce qui est lié à la climatologie ou à des climats qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus violents. Parfois, il y a des pluies qui sont extrêmement destructrices. Comment gérer le facteur risque? Comment être alerte vis-à-vis du monde qui nous entoure et gérer donc en interne, quand on est chef d'entreprise, cet élément qui est tout à fait insaisissable quand on en parle comme ça, mais qui en fait, quand il se produit, qui est tout à fait palpable avec des conséquences qui se comptent en monnaie sonnante et trébuchante. On en parle avec Vincent Balloué, qui est le fondateur du site maîtrisedescrises.com, et c'est un homme qui procède à de nombreux conseils d'accompagnement des grands chefs d'entreprise pour se préparer justement au risque. Risque avec un S, un risque au pluriel. C'est vrai, Vincent Balloué, qu'aujourd'hui, c'est une notion qui est tout à fait importante dans la conduite entrepreneuriale.
Le message un peu pessimiste, c'est que évidemment, ça ne va pas aller en s'arrangeant tendanciellement avec le temps. La machine climatique est en train de dériver, doucement mais sûrement et pour longtemps, même si on réagit bien en termes d'émissions. Et donc les ennuis qu'on peut avoir dans les mois et les années qui viennent vont se répéter, oui. Et plutôt en s'aggravant avec le temps, même s'il peut y avoir d'une année sur l'autre de la variabilité.
D'accord.
Donc, on est dans un environnement, si vous voulez, où on est parti pour un bon moment. Et donc, ça sert à rien de ne rien faire, puisque de toute façon, un jour ou l'autre, il va falloir commencer à changer nos habitudes, nos investissements, nos infrastructures, etc. Pour se rendre plus robuste, plus dur, si vous voulez, avec une économie et des infrastructures de pays et d'entreprises durcies par rapport à un climat qui va nous infliger des trucs de plus en plus sévères dans le temps.
D'accord.
Donc ça, c'est la première chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir tout ça? Ben, évidemment, on peut l'avoir en même temps. Et par ailleurs, si on a qu'un problème de sécheresse, on va prendre un exemple.
Oui.
Si on n'a qu'un problème de sécheresse sur un pays du Maghreb ou même de la rive nord de la Méditerranée,
on
va aller chercher très
même
loin.
Chose, bien sûr.
Oui, bien sûr. Voilà. Donc, si on a un problème que de sécheresse, alors, écoutez, il fait chaud et sans doute il pleut moins et les économies peuvent un peu s'organiser, par exemple en télétravaillant, par exemple en travaillant avec des horaires décalés tôt le matin, tard le soir pour ménager les populations, etc. En revanche, si on a plusieurs problèmes à la fois, du genre incendie, sécheresse, et puis on peut rajouter quand même le camarade cyberattaque qui est quand même jamais très loin de la part de ceux qui veulent nous embêter, alors on peut avoir, si on a deux crises en même temps, des plans B qui s'annulent. Donc je m'explique, s'il fait très très chaud, ça on a ça en région parisienne, on sait que les salariés reviennent au bureau la journée pour avoir de la clim qui tourne bien,
d'accord,
et passer une journée à 25 degrés pour reposer le corps.
D'accord.
Et ils retournent chez eux dans des logements qui sont en général pas climatisés, ils dorment pas bien. Mais s'ils se sont reposés à 25 degrés la journée, enfin si le corps s'est reposé hein, à 25 degrés dans la journée, alors c'est beaucoup plus facile à accepter. Donc le paradoxe, c'est que plus il fait chaud, plus les gens reviennent au bureau.
D'accord.
Et plus il fait d'un temps confortable, entre guillemets, plus les gens s'éloignent quand ils ont envie de s'éloigner. Le plan B de tout ça, ça s'appelle le télétravail. Et si on a des pannes informatiques, à ce moment-là, le remède, c'est précisément de retourner au bureau. Donc, si on a les deux en même temps, on se retrouve avec le plan A et le plan B à plat en même temps.
Bien sûr.
Et c'est là que les ennuis commencent, parce que les solutions, enfin les problèmes se multiplient avec le nombre de crises en même temps, si vous voulez, plutôt que de s'additionner.
Alors comment peut-on faire justement ? Parce que c'est vrai qu'on peut aussi se dire que pour une société, parce que les sociétés sont quand même, elles sont très simples quand on les écrit sur le papier, mais elles sont difficiles à gérer quand on a les mains dans le cambouis. Donc face à la multiplicité de crises potentielles, pour éviter les effets d'annulation que vous venez de nous décrire, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ben, ce qu'on peut faire, c'est d'abord anticiper et mettre ça à plat et ensuite bien comprendre qu'il y a une très grande variabilité d'entreprise à entreprise, même dans un seul secteur d'activité. Dans les banques, par exemple, vous avez certains établissements bancaires qui sont très centralisés, c'est-à-dire qui sont très... Il y a deux grands immeubles à Paris, pour faire simple, hein, et puis quelques agences un peu partout. Et puis c'est des banques d'affaires, donc elles sont peu répandues sur le territoire. Vous avez des banques de détail qui ont des agences partout, avec des directions régionales à fort effectif un peu partout. Et donc évidemment, la situation, enfin les plans B des uns et des autres, c'est pas les mêmes.
Bien sûr.
Parce que vous avez des installations en région, et donc on peut faire voyager un peu les gens le temps que qu'une ville se remette d'une inondation, par exemple.
Oui.
Donc même à l'intérieur d'un seul secteur d'activité, vous avez une grande variabilité qui dépend de votre système d'information, ça dépend de votre implantation physique sur votre territoire, ça dépend de vos effectifs, ça va dépendre de la manière dont vous êtes digitalisé, ça dépend de savoir si vous travaillez en B2C pour des clients individus ou en B2B pour des entreprises, etc. etc. Donc c'est chacun son miroir, si
d'accord,
vous voulez, pour se regarder dedans. Mmh. Et à partir de là, il faut bien comprendre comment l'entreprise est bousculée par des phénomènes que vous décrivez, qui s'appellent sécheresse, incendie climatique, etc. et inondation et plusieurs trucs en même temps. Voilà. Et ça, c'est assez. Il y a une grande variabilité. Nous, on a sous les yeux ici, on voit très très bien hein, depuis la cellule de crise ici, des entreprises grandes et petites de même secteur qui ont des problèmes très 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 différents à régler, certaines qui sont peu concernées par une inondation à Paris, par exemple, et pour les autres, c'est un cataclysme absolu.
Bien sûr.
Tout simplement parce qu'elles sont organisées différemment, enfin bref. Et donc, la règle du jeu ne va pas s'appliquer de manière égale, si vous voulez, sur les uns et les autres.
Mais cela dit, vous avez prononcé, en fait, le premier mot qui vous est venu quand vous avez abordé ces questions, c'est le mot anticipation. Alors, c'est vrai que pour un chef d'entreprise, anticipation, ça peut vouloir dire frais engagés pour un résultat dans l'immédiat qui est incertain parce que vous le disiez il peut ne pas pleuvoir, etc. Donc on peut aussi faire des calculs à minima en disant quand même c'est trop d'argent investi pour un résultat qui semble somme toute assez incertain. Où est le bon équilibre entre le surcroît d'anticipation, on vit dans un cylindre cérébral où on a peur de tout et on met trop d'argent dans la machine, et le rien qui peut être l'ennemi qui peut en tout cas conduire à des journées difficiles. Comment faire son point d'équilibre finalement ?
Alors il y a deux paramètres dans cet équilibre-là.
Ouais.
Le premier, c'est la taille de votre entreprise. Alors pour la faire, et puis le rapport que vous entretenez au risque. Je parle là au nom du chef d'entreprise.
Hein. Mmh.
Alors pourquoi c'est différent ? Parce que quand vous avez une entreprise de 100 à 150 000 salariés, les plans B sont évidemment beaucoup plus compliqués que quand vous avez 10 collaborateurs qui sont capables de vadrouiller avec leur PC portable et c'est terminé. Quoi. Donc une toute petite boîte ultra légère, si vous voulez, est très nomade. Je ne dis pas qu'il ne faut rien anticiper, mais pas loin, et ça suffit largement. Et évidemment, les pachydermes, et notamment étatiques, sont obligés, eux, de faire des plans B pour des questions de robustesse de l'appareil d'État que chacun peut comprendre. Donc le rapport au risque des uns et des autres est complètement différent. Ça, c'est à la main du chef d'entreprise, et c'est lui qui dit ça, c'est en dehors du trait rouge ou c'est à l'intérieur. Et donc, évidemment, c'est plus cher de se préparer que de ne rien faire, sur le moment, bien sûr, parce qu'il y a des investissements à faire. Donc le premier paramètre, c'est le rapport que vous entretenez au risque, qui dépend pour beaucoup de la taille et de la complexité de votre boîte. Après, le deuxième paramètre, c'est qu'on sait quand même, malgré tout avec le climat, que le sujet est à forte inertie et que donc ça ne va pas régresser. et que donc il va falloir un jour ou l'autre s'y mettre. La question c'est quand et comment optimiser ça, hein, c'est votre question. Et il semble que là, il y ait un consensus assez clair qui se dégage avec en mettant en œuvre la politique de l'escalier. Alors c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est-à-dire de voir la première marche de l'escalier puis on verra plus tard. C'est pas ça. C'est de profiter par exemple d'un investissement ou au moment où on déménage ou au moment où on crée un nouveau data center. Où on crée un nouveau centre de livraison, on modifie quelque chose, un entrepôt, etc., d'en profiter pour durcir l'entreprise par marche d'escalier.
D'accord.
Donc c'est là que ça se fait. Alors par contre, il faut grimper la barre de manière un peu significative. Et le surcoût qui est engendré au moment où on fait l'investissement, de toute façon, pour éviter de faire des grosses bêtises et de le mettre au pied de la rivière, si vous voulez, il est pas forcément super fort, quoi. Donc, je vais prendre un exemple simple. Dans les villes ici, on voit bien que quand il y a des orages stationnaires, vous savez, des orages qui arrivent, qui font tomber des pluies diluviennes sur vous, et ça arrive partout, tout autour de la Méditerranée, ça a tendance à transformer une route en rivière à sec.
Ah ouais?
C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que les rivières qui débordaient. Donc, on faisait attention de ne pas mettre un data center près de la rivière.
Bien sûr. Oui, c'est
aujourd'hui, ça. On sait qu'une rivière qui se prend un orage stationnaire, une route ou un parking qui se prend un orage stationnaire se transforme en rivière.
D'accord.
Donc, dès qu'on met un data center en bas du parking, c'est-à-dire la pente dirigée vers vous, vous êtes sûr d'aller dans l'eau. Donc il faut changer un peu son regard sur les surfaces, les reliefs, pour éviter de déménager un nouveau data center en bas de la pente, et plutôt le mettre en haut de la pente. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ça s'appelle durcir l'entreprise et d'avoir des bons réflexes là-dessus. Et donc ça, c'est pas forcément des investissements colossaux. Et alors, je voudrais juste rajouter quelque chose,
c'est
qu'avec le temps, la valeur de l'entreprise qui est climato-durable, enfin climato-résistante, vaut plus lors d'une cession ou d'une acquisition ou d'une transmission d'entreprise qu'une entreprise qui n'aurait rien fait. Donc prenons deux entreprises complètement égales à tout point de vue, même effectif, même chiffre, etc. Il y en a une qui fait que des bêtises et qui est en bas de la pente et qui se prend la quatrième inondation faute d'avoir été un peu clairvoyant au point de vue des investissements, et l'autre qui a tout fait tout bien. Évidemment, au moment de la cession, c'est pas pareil. Et les cabinets et les entreprises qui sont et les banques d'affaires qui sont chargées de faire les évaluations des entreprises avant cession. Sur des motifs cybersécurité, c'est très exactement la même chose. Hein. Une entreprise bunker, ça vaut plus cher qu'une entreprise passoire. C'est exactement la même chose. Et une entreprise cyber-résiliente vaut plus cher. Donc ça démontre bien que tout ceci sont des investissements et non pas des dépenses qui sont finalement, qui puissent être comptabilisées dans l'actif de l'entreprise au sens de sa valorisation au moment de la cession.
Ce que vous décrivez, en fait, c'est une culture d'entreprise, c'est une culture du riz, une culture générale finalement.
Bien sûr. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. On lit beaucoup, oh là là, le risque, ça fait peur, on vend de la peur. C'est pas vrai. Ce qui fait peur, c'est l'obscurité. C'est quand on n'y réfléchit pas et qu'on réfléchit pas sur son avenir et sur ce qu'on est en train de faire et au passage de faire subir aux autres. Hein. Je pense qu'il ne faut pas oublier les salariés dans cette affaire quand même. Hein. Parce que les salariés qui sont dans une entreprise passoire, le premier problème, ils se retrouvent à la rue quand même. Donc il faut aussi être responsable là-dessus. Et donc vous avez parfaitement raison. Donc le rapport au risque est en train de changer. Et par ailleurs, on a, alors là, en sortant du sujet climat, on a la cyber, tout le contexte international qu'on connaît en ce moment et qui risque malheureusement de bouger. Donc, vous savez qu'en France, on a un petit sujet qui s'appelle la grosse pagaille 2024, là, qui est en train de pointer le bout de son nez là, maintenant.
Alors, peut-être, c'est très intéressant, ce dossier-là. Peut-être pour nos auditeurs du Grand Maghreb qui n'ont pas encore eu le plaisir d'entendre ce qu'est cette chose, en quelques mots, parce que c'est vraiment un point qui est très, très intéressant.
Sur la pagaille 2024.
Oui, la pagaille 2024, parce que c'est vrai que ça repose la question de l'anticipation et de la gestion.
Oui. Alors vous savez, donc en France, on a quelques événements qui sont devant nous entre maintenant et le mois de septembre.
Ouais.
Alors dont les Jeux qui sont en plein milieu, mais il n'y a pas que ça. Il y a, vous savez, qu'on organise le Tour de France, on a Roland Garros, on fait une cérémonie d'ouverture sur la Seine qui n'a jamais été faite auparavant. Il ne faut pas oublier les Jeux paralympiques qui sont derrière. On a encore quelques festivités du type fête de la musique, fête du 14 juillet, défilé militaire, voilà. Et donc tout ceci fait une accumulation d'événements qui, disons, met les caméras et les projecteurs sur la France. C'est une séquence. Le contexte international fait que nos camarades Poutine et quelques autres ont envie de s'amuser un peu. Quand je dis amuser, vous mettez les guillemets, évidemment, pour fausser tout ça. Voire attaquer, voire faire des actes de terrorisme, voire se fâcher au plan cyber.
Hein. Voilà. Comprenons-nous bien, parce que ça, on est sur des questions qui, ici, sont extrêmement sensibles à M. Balloué. Donc, on comprend bien quand vous dites attaquer, on est sur du cyber, on n'est pas sur des attaques conventionnelles, il n'y a pas d'attaque militaire.
On est sur des pays qui ne sont pas en guerre.
C'est important d'être précis sur les mots.
D'accord, mais enfin, on peut quand même avoir du terrorisme. Vous savez, la blessure du Bataclan à Paris est encore très largement ouverte.
D'accord.
Et donc, les pouvoirs publics nous disent qu'il faut faire attention.
Mais ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que le Bataclan n'a rien à voir avec la Russie non plus. Donc, on est les risques demeurent, ça c'est vrai, c'est clair.
On a une accumulation de risques.
D'accord, une accumulation de risques.
Et on peut avoir la scène qui déborde et une canicule qui fait que on va vouloir absolument aller au bureau, alors que les pouvoirs publics ont demandé aux équipes et aux salariés de rester chez eux plutôt en télétravail pour libérer le métro pour les touristes. Mais s'il fait très très chaud, comme on l'a dit tout à l'heure, les salariés ils vont vouloir revenir au bureau. Enfin, voilà,
on revient sur cette idée d'accumulation, on est bien d'accord, absolument.
Donc il y a une accumulation de risques. Alors si on en a zéro, écoutez, ça sera une grande réussite et bravo et tant mieux et félicitations à tous ceux qui ont organisé tout ça. Si on a une crise à la fois, je pense que ça va, c'est pas la fin du monde non plus. Maintenant, si on en a trois ou quatre en même temps, là il faut commencer à faire attention parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour plein de raisons, il y a certains plans B qui se télescopent. Et qui rendent un petit peu collant, si vous voulez, le marécage dans lequel on risque de rentrer. Quoi.
Bien sûr.
Donc il faut anticiper tout ça.
Ouais.
On met les scénarios un par un sur la table, on essaie de voir de quoi ils sont faits, et puis on fabrique de la réactivité et de la souplesse pour pouvoir contourner les... Enfin, je parle pour les entreprises en général. Hein. Pour pouvoir contourner tout ça et essayer d'être réactif, surtout si les difficultés arrivent. Voilà.
Mais on a, excusez-moi, pardonnez la naïveté de la question, mais,
non,
par exemple, face à une situation comme celle que vous nous décrivez pour cette, effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de pays qui vont organiser de plus en plus de grands événements, sportifs notamment, hein, et c'est vrai que même par exemple au Maroc, il va y avoir la Coupe du Monde, donc ces questions d'organisation, au même moment, on va avoir plusieurs événements qui vont être, alors c'est formidable parce que ce sont des grands événements, ils vont se télescoper de par les agendas. Comment faire pour que ça fonctionne? Alors, dans ces cas-là, quand on est dans cette situation-là, comment ça se passe? Il y a des modèles, on applique des règles, on fait ça au doigt mouillé, le nez dans le vent, on se dit qu'il faut faire comme ci, comme ça. Comment ça se passe, en fait?
D'abord, il faut refuser l'obscurité et la politique de l'autruche, hein, ça, il faut être un peu clairvoyant. La deuxième, c'est une veille très importante sur l'ensemble des sujets. Donc ça s'appelle les cartes météo en amont pour voir les catastrophes naturelles venir. Ça s'appelle l'actualité, la veille réglementaire à ce que nous disent les pouvoirs publics. Ça veut dire la veille cyber sur les gens qui ont le nez sur les écrans pour voir les cyberattaques venir. Pour des raisons techniques, certaines on les voit arriver, d'autres non. C'est la veille sociale dans son entreprise pour savoir s'il y a de la grogne, oui ou non, etc. Donc il faut sortir les antennes et les radars, si vous voulez, sur un peu tous les sujets. Et puis après, il faut se mettre tout à plat et en disant, si on a un de ces pépins-là, comment on fait? Et si on en a plusieurs à la fois, comment on fait? Alors évidemment, plus on a de pépins en même temps, plus la recette miracle tient de la cellule de crise et du talent de son leader qui ira prendre les bonnes décisions, souvent inhabituelles, du genre tout fermer, tout déménager, enfin des trucs un peu spectaculaires. Parce que les petites procédures, si vous voulez, fonctionnent plus. Et plus on a une seule crise à la fois, plus il faut être confiant quand même. Hein. On n'est pas non plus.
Oui, c'est ça.
On dormit, il faut pas se noyer dans un verre d'eau. Le problème, c'est que si on a plusieurs verres d'eau, là, ça devient un peu plus compliqué, quoi.
Mais par exemple, quand on est sur un schéma comme celui que l'on vit en France, où vraiment cette notion d'anticipation, on peut quand même accorder ceci aux autorités françaises. Mais encore une fois, on parle de la France, mais ça peut vraiment aussi arriver dans tout un tas d'autres capitales. Aujourd'hui, les États ont acquis cette culture d'anticipation, culture de gestion du risque. On a des acquis, on a des retours d'expérience par rapport à des mesures qui ont déjà été prises dans le passé. On peut se dire sereinement autour de la table que vous nous décriviez à l'instant tout à l'heure, Vincent Balloué. Bon, ça fonctionne, ça fonctionne pas. On a ces éléments qui nous permettent d'avoir des référentiels anciens.
Alors, on essaye, d'abord on fait de notre mieux. On essaye de débriefer des événements qui appartiennent au passé, même s'ils ne sont pas sur le territoire français, par exemple, pour essayer de comprendre ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, et tirer les enseignements de tout ça, et puis essayer d'avancer. Il y a un autre paramètre dont on a un peu parlé, c'est le fait que la culture du rapport au risque est souvent nationale.
Ouais.
Alors, je vais prendre un exemple. La France, comme vous le savez, est un pays qui est assez confortable du point de vue de son climat, du fait de sa position géographique. En gros, on a l'Atlantique qui régule bien les températures, il fait jamais trop chaud, jamais trop froid, même si ça dérive un peu. On n'a pas de tornades, pas de tempêtes, pas de cyclones, pas de tremblements de terre, pas de plein de choses désagréables, qui fait qu'en France, tout pousse. Enfin, vous voyez, bon, voilà, c'est pas mal, quoi. Et donc, on a la sécurité sociale, on a une culture de rejet du risque, on est riscophobe en France.
Ouais. Et donc, c'est intéressant, comment on est riscophobe,
On ne veut pas s'en occuper pour des raisons très ancestrales, si vous voulez. Traverser l'Atlantique, et vous avez de l'autre côté le territoire américain sur lequel il y a des tornades qui sont évidemment pas les mêmes, la terre tremble, le Yellowstone peut peut-être se réveiller, quand il pleut et quand il tombe de la neige, les flocons de neige dans le nord de l'État de New York vous engloutissent 1,50 m en moins d'une heure, etc. Donc la nature est beaucoup plus violente de l'autre côté de l'Atlantique que chez nous. Par ailleurs, les Américains sont des Américains, c'est-à-dire des migrants historiquement et des conquérants. Ouais. Et donc ils ont un rapport au risque qui est complètement différent.
Bien sûr.
Ah oui. Et donc ils débriefent beaucoup plus facilement. Ils ont beaucoup moins de complexes que nous à dire on n'a pas été bon et il faut qu'on avance. Et de dire finalement cette solution était intellectuellement satisfaisante, mais elle n'a pas marché, donc il n'y a pas d'humiliation, c'est pas grave. Chez nous, de temps en temps, ça peut faire des drames.
Oui, bien sûr. C'est intéressant ce que vous dites. Ouais.
Plus qu'ailleurs. Voilà. Maintenant, quand on a tendance aussi à voir ce qui ne va pas chez soi et penser que l'herbe est bien verte à l'extérieur, et pour avoir un peu voyagé aux États-Unis au contact de la FEMA et d'autres administrations là-bas qui s'occupent de toutes ces questions-là, figurez-vous qu'ils ont un regard complètement inversé et eux disent non, on n'est pas bon, et en Europe et notamment en France, qu'est-ce qu'ils sont forts. Bon, donc voilà. Donc c'est pas si grave que ça, tout ça. Mais par contre, il ne faut surtout pas rester immobile et les yeux fermés dans une situation où le climat dérive.
Bien sûr. Une toute petite question pour finir cet entretien absolument passionnant, Vincent Balloué. C'est une question bienveillante et un peu taquine, mais quand on fait le métier qui est le vôtre, comment fait-on pour ne pas devenir parano, de voir le mal partout, le danger partout? C'est vrai, parce que vous êtes très attentif à ça en permanence. Comment fait-on pour vivre?
Je vois pas. Alors, ça dépend ce que vous appelez le mal. Moi, je vois le risque un peu partout, mais je fais avec les entreprises qui nous font confiance ici, comme je ferai avec mes propres enfants.
Donc,
quand on a des enfants, on fait attention quand ils traversent, on fait attention à ce qu'ils mangent, ils mettent les doigts dans la prise, et que sais-je encore. Donc, et puis après, pour ceux qui sont plus grands et on s'en occupe moins, parce qu'on considère qu'ils vont se débrouiller, les entreprises, c'est un peu pareil. Il y a des entreprises qui ont moins compris certains risques que d'autres, qui sont plus exposées parce qu'elles sont au bas de la pente et près de la rivière, pour prendre un exemple, une image très simple. Et donc, il faut un peu s'en occuper. Et donc, je ne suis pas dans une situation de parano, mais plutôt de bienveillant. J'essaye de donner des recommandations bienveillantes et protectrices vis-à-vis sur des chefs d'entreprise qui, eux, après, sont libres de les appliquer ou non.
Oui, absolument.
De leurs situations individuelles. Donc, voilà. Est-ce que ça m'empêche de dormir ? Parfois, quand la tension monte, quand la scène est en l'air et que les cyberattaques, c'est vrai que ça tourne et que je suis mieux devant mes écrans avec toutes les alarmes qui sortent parce qu'au moins je vois ce qui se passe que les yeux fermés.
Mais ce qui est vraiment, vraiment très intéressant, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une vraie culture de la gestion du risque. C'est pas du tout, c'est pas une posture intellectuelle un peu évanescente, c'est vraiment quelque chose qui doit être au cœur de l'entreprise et dans le job du président du PDG.
Bien sûr, de toute façon, pour deux raisons. La première, c'est que entreprendre, c'est prendre des risques.
Bien sûr.
donc fondamentalement. Et petit 2, dans un monde où tendanciellement les choses ne vont pas aller s'arranger sur deux fronts, il y a le climat et la cyber, il faut rester, le reste, on peut éventuellement infléchir les choses, mais là, sur ces deux chapitres-là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut rester attentif à ça et considérer qu'une entreprise bien préparée et bien comprenante sur ces sujets-là est une entreprise qui a plus de valeur. Je reviens sur mon idée tout à l'heure, de valeur. C'est plus facile de recruter quand on est une entreprise bunker et résiliente que quand on est une entreprise passoire, parce que les collaborateurs, ils disent, le premier coup de vent, on est en l'air, quoi. Donc, c'est plus facile de recruter, c'est plus facile de se vendre, c'est plus facile de trouver des clients, d'avoir de bons fournisseurs quand on est cybersécurisé ou quand on est climato-résilient. Et donc, cette valeur-là, qui vient du gestion, disons, raisonnée du risque, pas forcément ultra, mais raisonner du risque, et effectivement un nouvel entrant, enfin disons un entrant permanent en augmentation dans l'univers du risque d'un créateur ou d'un dirigeant d'entreprise, bien sûr.
Merci Vincent Balloué pour l'ensemble de ces explications. On revient avec les derniers chiffres de la croissance qui sont communiqués par le Haut Commissariat. Au plan, on apprend que cette croissance au premier trimestre de l'année, eh bien, cela fait état d'une régression de 3,9% des activités agricoles en cause les conditions climatiques que nous évoquions à l'instant avec Vincent Balloué, les conditions climatiques qui auraient entravé l'installation des cultures automnales et hivernales. Mehdi Fakir, économiste, un spécialiste en finances publiques, il analyse ces chiffres au micro de Wafa Taouzri.
La dernière note de conjoncture émanant du Haut Commissariat au Plan confirme les craintes des spécialistes en matière, je dirais, d'un ralentissement pour la croissance économique au titre de l'année 2024, parce que le Maroc dépend principalement du secteur primaire, qui dépend d'une pluviométrie imprévue, qui fait aujourd'hui que nous sommes devant une saison agricole relativement compromise. Certes, les dernières précipitations ont enrichi, les stocks et les réserves du Maroc en eau et ont permis éventuellement de rattraper certaines cultures, printanières, mais il reste très compliqué aujourd'hui de parler d'une saison agricole normale. Et de facto, et au regard de cette dépendance de la valeur ajoutée agricole, l'économie européenne devrait enregistrer un ralentissement pour afficher un taux de 2,7%.
Merci Mehdi Fakir, c'était un vrai plaisir de vous entendre également dans Economia. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.